Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Qui a dit que la rêverie était forcément mélancolique? Quand Rousseau rêve, il se sent bien. Il se sent libéré de lui-même, entièrement attentif aux sentiments de l'existence qui l'emplit d'un bien-être aussi rare que précieux. Les rêveries du promeneur solitaire sont le dernier texte de Rousseau. Celui-ci se sent vieux et affaibli, mais au cours des 10 promenades qui composent le texte, l'émotion est présente à chaque page, tantôt sourire, tantôt agacement, tantôt rire, tantôt joie même. Bonjour Michel Crogier.
Bonjour.
Vous avez présenté et annoté les rêveries en livre de poche. C'est des éditions dans lesquelles je lis ce texte depuis la Cagne, je crois. La lecture des rêveries, donc les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau, vous rend-elle mélancolique ou bien vous met-elle en joie?
Ah bien, puisque vous me posez la question, on peut rappeler que les premiers lecteurs trouvaient ce texte mélancolique. Personnellement, c'est pas comme ça que je le lis. Il faudra que nous discutions de la façon dont vous l'avez ressenti. Mais c'est un texte qui exprime tellement de bonheur, de conquête de bonheur, de capacité à se rendre heureux malgré les difficultés qui sont récurrentes, qui reviennent sous la plume de Rousseau, quoi qu'il en est. Malgré ces difficultés, il se dit heureux, il se sait heureux et il conquiert son bonheur, ce qui fait aussi le bonheur de la lecture de ses lecteurs, bientôt 2 siècles et demi après l'écriture de ce texte fabuleux.
Allez, en route sur les chemins de la philosophie, on commence par le contentement, le bonheur, que dis-je, la joie.
Le bonheur est un état permanent qui ne semble pas fait ici-bas pour l'homme. Tout est sur la terre dans un flux continuel qui ne permet à rien d'y prendre une forme constante. Tout change autour de nous. Nous changeons nous-mêmes. Et nul ne peut s'assurer qu'il aimera demain ce qu'il aime aujourd'hui. Ainsi, tous nos projets de félicité pour cette vie sont des chimères. Profitons du contentement d'esprit quand il vient. Gardons-nous de l'éloigner par notre faute. Mais ne faisons pas de projets pour l'enchaîner, car ces projets-là sont de pure folie. J'ai peu vu d'hommes heureux, peut-être point, mais j'ai souvent vu des cœurs contents, et de tous les objets qui m'ont frappé, c'est celui qui m'a le plus contenté moi-même. Je crois que c'est une suite naturelle du pouvoir des sensations sur mes sentiments internes. Le bonheur n'a point d'enseigné extérieur. Pour le connaître, il faudrait lire dans le cœur de l'homme heureux. Mais le contentement se lit dans les yeux, dans le maintien, dans l'accent, dans la démarche, et semble se communiquer à celui qui l'aperçoit. Est-il une jouissance plus douce que de voir un peuple entier se livrer à la joie un jour de fête, et tous les cœurs s'épanouir aux rayons expansifs du plaisir qui passe rapidement, mais vivement, à travers les nuages de la vie?
Et oui, il est plus d'un point commun entre Rousseau et Tati, et c'est pas simplement l'évocation du jour de fête par Rousseau qui fait penser, on y reviendra au cours de cette émission. En tout cas, dans ce texte, Michel Crogier, les distinctions sont faites entre bonheur, contentement, joie, jouissance. Tous les termes sont présents en ces quelques lignes, c'est pas des termes qu'on est habitué à trouver très souvent sous la plume de Rousseau. En quoi est-ce que ces distinctions sont importantes pour lui, de distinguer le contentement du bonheur, de la joie?
Eh bien, je crois que ces distinctions sont importantes, comme toutes celles que fait Rousseau. On a l'habitude de le lire comme un texte agréable. On suit Rousseau en promenade. Je suis un peu désolée d'employer le mot autrement qu'il ne l'emploie. On a souvent une lecture un petit peu, sans doute, pédestre, distraite de Rousseau. Mais c'est un philosophe, c'est un grand philosophe, c'est un technicien de la langue. C'est quelqu'un qui a été juriste, chimiste, constitutionnaliste, philosophe. Et ce philosophe connaît le sens précis des mots. Quand il a quelque chose de précis à le dire, il emploie des mots, alors non pas des mots qui ont l'air techniques, rebutants, érudits, mais il emploie des mots qui sont précis. Et le contentement, ça n'est pas la même chose que le bonheur. Alors le bonheur, c'est une chose intime, il le dit, donc on ne peut pas savoir si quelqu'un est heureux. Et le bonheur, comme il le dit, n'a pas d'enseigne, donc ça ne se voit pas pour autrui si je suis profondément heureux. En revanche, le contentement, c'est quelque chose qui se lit sur les yeux, sur l'attitude des gens qui sont en face de lui, ce qui fait que c'est un spectacle au sens étymologique d'une chose à voir. Des gens heureux, c'est un spectacle qui est capable, par le contentement qu'il voit, de lui en donner aussi. Et la joie est une espèce d'exacerbation, de mouvement extrême, de ce contentement qui se répercute un peu plus loin, un peu plus longtemps que le moment de la fête, le moment du spectacle, du contentement qu'il a sous les yeux.
C'est un extrait de la 9e promenade. On avait laissé Rousseau hier, à la fin de la 7e promenade, qui décrivait le bonheur qu'il trouvait à s'adonner à la botanique. À la 8e promenade, que nous allons évoquer également, on le retrouve de nouveau malheureux, qui se sent persécuté, qui se sent exclu par tout le monde. Comment le basculement s'opère-t-il ? Parce qu'ici, non seulement il ne se sent pas persécuté, dans ce texte-là en tout cas, mais en plus, il dit qu'observer les autres peut lui procurer du contentement et qu'il a peu de plaisir qui égale celui d'observer des gens qui eux-mêmes sont contents. Tout d'un coup, Rousseau aime les gens.
C'est pas tout d'un coup, c'est quand les gens l'aiment que Rousseau apprécie leur compagnie. Il l'a dit dans la première promenade, s'il est seul, c'est malgré lui. Si les autres l'ont abandonné, c'est les autres qui l'ont poussé à la solitude, ça n'est pas lui qui a choisi cette solitude. Alors maintenant qu'on le pousse à la solitude, il est content de se promener seul à l'occasion, mais il est content aussi, quand l'occasion se présente, de voir des gens heureux. Et les seules rencontres heureuses qu'il peut faire sont bien sûr des gens qui n'appartiennent pas au complot. Donc des enfants qui ne sont pas encore instruits du complot mystérieux, machiavélique, qui est dressé contre lui. Ou bien des invalides récemment arrivés à Paris qui ne savent pas encore qu'on doit surveiller ce monsieur Rousseau inquiétant et dire du mal de lui. Donc quand il a l'occasion de rencontrer des gens heureux, sincèrement heureux, spontanément heureux, il est très content de participer à cet amour de l'humanité dont il dit que c'était sa marque de fabrique. « J'étais né pour cela », dit-il dans la 8e promenade. Alors il était né pour l'amour de l'humanité, et puis le complot, les circonstances, la méchanceté du monde ont fait qu'il n'a pas pu exercer cet amour de l'humanité, mais il considère qu'il était né pour ça. Il dit dans la 8e qu'il était ainsi constitué, et donc l'amour de l'humanité reste inscrit en lui, même si dans l'expérience quotidienne, c'est malheureusement quelque chose qu'il ne peut plus pratiquer ou contempler.
Mais est-ce qu'il n'aime pas l'humanité plus que les hommes ? Parce que finalement, toute sa pensée repose aussi sur le constat d'une dénaturation, d'une corruption de l'homme dès lors qu'il vit en société.
Alors, vous posez une question compliquée. Bien sûr qu'on pourra toujours dire que si Rousseau n'aime pas les hommes, c'est parce qu'il a une vision idéale de l'humanité. La 9e promenade nous donne envie de réfléchir, peut-être de façon un petit peu plus complexe que cela, parce qu'il ne met pas tous les hommes, si j'ose dire, dans le même panier. Il y a les hommes qui sont méchants avec lui, les hommes qui le regardent de travers, comme le père du petit enfant qu'il a croisé sur la route, qui est là en train de serrer ses tonneaux et qui tout d'un coup prend un œil vindicatif pour le regarder, ce qui pousse Rousseau à battre en retraite, de crainte, on ne sait de quel accrochage. Mais je crois que l'idée qu'il aurait aimé les hommes malgré eux, il répète cette expression plusieurs fois dans les rêveries, ça exprime bien le penchant qu'il aurait eu pour des hommes si les hommes pouvaient ne pas être habités par l'amour propre, la méchanceté, la misanthropie qui finalement est leur fête et non le sien.
Et c'est intéressant parce qu'il commence la 8e promenade en faisant le constat d'une disproportion entre ce qui lui arrive et l'état qu'il ressent, et que finalement il se rend compte que les moments où il était très bien en société, très bien reçu, connu et admiré, il ne se sentait pas vraiment heureux, alors que les moments où au contraire il était victime de persécutions, de moqueries et de méchanceté, bien finalement, dans la mesure où il décidait alors de fuir les hommes et de se retrouver en lui-même, il se sentait bien plus heureux. Ce qui montre que son bonheur dépend aussi d'une certaine distance qu'il installe entre lui et les gens.
Oui, ça c'est le grand paradoxe de Rousseau, c'est que il est différent de tout le monde, absolument différent de tout le monde. Peut-être que c'est lui qui a inventé la vision moderne de l'individu, cette authenticité. On n'est heureux que quand on est soi, quand on est soi-même, quand on est complètement cohérent avec ce qu'on pense, ce qu'on fait, ce que l'on vit. Alors quand on est dans l'hypocrisie sociale, quand on est dans le jeu social, quand on joue un personnage toute la journée, on n'est jamais soi-même. Et pour reprendre les mots de Rousseau, on est en dehors de soi, ce qui est une façon de dire qu'on n'est plus soi-même, on n'est plus en cohérence avec soi-même, on est, si on peut en prendre une expression qu'il n'aurait pas lui utilisée, assis entre deux chaises, ce qui est extrêmement désagréable. Quand une fois on a cessé avec la comédie sociale, quand une fois on est redevenu soi-même, alors on peut avoir l'occasion d'être heureux. D'autant que ce bonheur intime, c'est quelque chose que Rousseau vit au présent. Hein, on vient de l'entendre dans la lecture. Le bonheur est un état permanent qui ne semble pas fait ici-bas pour l'homme. C'est-à-dire que l'homme n'a que des intermittences de bonheur. Mais ces intermittences, ces moments de bonheur, sont une forme de présence indéniable. Quand le bonheur est là, même il imagine qu'il serait possiblement en prison. Il est persécuté, il est accablé de tous côtés. Mais quand il est heureux, c'est une présence indéniable. C'est un sentiment qui est indéniable.
Je n'eus jamais beaucoup de pente à l'amour propre. Mais cette passion factice s'était exaltée en moi dans le monde et surtout quand je fus auteur. J'en avais peut-être encore moins qu'un autre, mais j'en avais prodigieusement. Les terribles leçons que j'ai reçues l'ont bientôt renfermé dans ses premières bornes. Il commença par se révolter contre l'injustice, mais il a fini par la dédaigner. En se repliant sur mon âme, en coupant les relations extérieures qui le rendent exigeant, en renonçant aux comparaisons, aux préférences, il s'est contenté que je fusse bon pour moi. Alors, redevenant amour de moi-même, il est entré dans l'ordre de la nature et m'a délivré du joug de l'opinion. Dès lors, j'ai retrouvé la paix de l'âme et presque la félicité. Car dans quelque situation qu'on se trouve, ce n'est que par lui qu'on est constamment malheureux. Quand il se tait et que la raison parle, elle nous console enfin de tous les maux qu'il n'a pas dépendu de nous d'éviter. Elle les anéantit même autant qu'ils n'agissent pas immédiatement sur nous, car on est sûr alors d'éviter leurs plus poignantes atteintes en cessant de s'en occuper. Ils ne sont rien pour celui qui n'y pense pas. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, c'est le dernier temps de notre série d'émissions sur les rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau, aujourd'hui en compagnie de Michel Crogier. Je viens de lire un extrait de la 8e promenade où il est question de l'amour-propre, qui est sans doute un des concepts qui revient le plus dans l'œuvre de Rousseau. Et ici, encore une fois, il montre comment l'amour-propre bien pensé, enfin qu'il y a une certaine utilisation de l'amour-propre envers soi, il va falloir qu'on distingue amour-soi et amour-propre, peut et peut-être la clé, la façon que nous avons de parvenir à cet état tant recherché que serait le bonheur.
Absolument. Et comme l'amour-propre est un concept qui a été théorisé, illustré, commenté, analysé au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle encore, comme finalement la perversion des sentiments intimes. L'amour-propre, c'est ce qui nous détourne de nous-mêmes, c'est ce qui nous oblige à jouer un rôle social, ce qui nous oblige à mentir, à être toujours autre que nous-mêmes. C'est finalement ce sentiment qui nous sort de nous-mêmes. Et quand Rousseau estime que le moi n'est pas haïssable, quoique Pascal ait pu en dire, quand Rousseau essaye d'expliquer qu'on peut se respecter soi-même, s'accepter soi-même, déclarer qu'on a le droit d'être heureux en soi-même, il bâtit ce sentiment qui fait qu'il est normal, après tout, que je passe avant les autres, d'une certaine façon. Il a bâti ce sentiment de l'amour de soi comme une espèce d'expression du droit existentiel que j'ai à exister. Je ne dois pas me cacher, je ne dois pas disparaître derrière le personnage social que le monde, ma profession, la situation m'oblige à jouer. Je peux avoir le droit d'exister en moi-même et ça, c'est l'amour de soi. J'ai le droit d'être moi et j'ai le droit d'être heureux, dit Rousseau. Et en disant cela, il renvoie toutes les théories philosophiques, théologiques, métaphysiques sur l'amour propre tel qu'il a été dénoncé depuis longtemps déjà avant lui, en montrant que l'amour de soi, c'est au contraire le chemin qui ramène à soi, qui ramène à ses propres sentiments, qui nous ramène en cohérence avec nous-mêmes, et chacun chez soi, chacun pour soi, et que c'est ce qui peut être la base d'une entente égalitaire entre les hommes, et non pas de cette cascade de mépris qu'incarne la vie mondaine et la vie sociale telle qu'il l'a connue au plus haut niveau. niveau, puisqu'on n'a pas besoin de rappeler que même si au moment où il rédige les rêveries, il y a longtemps qu'il a quitté la vie mondaine, mais enfin, il a participé à la vie mondaine, à la vie littéraire des années 1750 et même encore un peu après, à Paris. Donc, il sait exactement ce que c'est que cette hypocrisie sociale. Et il découvre que jamais il ne sera heureux à jouer ce personnage et que c'est seulement en acceptant d'être soi, d'accepter son bonheur, de vivre pour lui, d'être dans l'amour de soi et non pas dans l'amour propre, qu'il va pouvoir se sentir heureux.
Alors comment distingue-t-on les deux ? L'amour propre est une sorte de corruption de l'amour de soi ? Quand on s'aime trop ou...
L'amour propre, c'est un concept qui préexiste. Et ce que Rousseau invente, c'est essayer de retirer de l'amour propre la partie qui en est légitime. Celle qui me concerne et qui est légitime. Alors que l'amour propre, c'est un ensemble de sentiments qui sont comme téléguidés par les exigences sociales, par l'hypocrisie sociale et qui n'ont rien d'authentique. Ou alors, si je ne suis qu'amour propre, alors je ne suis qu'un personnage, je ne suis qu'un hypocrite et je ne suis jamais moi-même. Donc pour Rousseau, ça n'a pas de valeur, bien sûr, philosophique. Et puis surtout, ça n'a aucune efficacité pour rendre l'homme heureux. Parce qu'on est toujours dans un personnage et que ce personnage est toujours, bien sûr, instable, inabouti, dans la quête d'une autre reconnaissance sociale. Et quand on attend son bonheur des autres, on risque d'attendre longtemps. C'est ce que
Oui, mais alors la solution qu'il propose, c'est d'être tout seul. En fait, pour être heureux, il faut être seul.
Alors, c'est pas, vous avez lu vous-même la 9e promenade, c'est pas la seule solution. C'est celle qui dépend de lui.
Hein. Ouais.
Ça ne dépend pas de lui d'être victime de la méchanceté des autres, mais ce qui dépend de lui, c'est d'être solitaire plutôt que mal accompagné. Mais on peut aussi être heureux quand on est en compagnie de gens qui ne sont pas des hypocrites, qui n'appartiennent pas à ce mystérieux complot qui l'entoure de partout. Et donc, ce sont les vieillards des Invalides ou les jeunes enfants qui ne savent pas encore qu'on doit dire du mal de Rousseau et mal se comporter vis-à-vis de Rousseau.
Écoutez comment Jean Starobinski décrit la solitude de Rousseau, une solitude choisie, quand même teintée de misanthropie.
Être vu, c'est à la fois la condition d'un certain bonheur, d'un bonheur collectif où les regards des uns et des autres se rencontrent, mais c'est aussi, et c'est là que soudain peut s'éveiller la conscience du mal, c'est le danger d'être vu comme celui qui fait sécession, comme celui qui se replie dans sa solitude mauvaise. C'est la raison pour laquelle, lorsque Rousseau a lu sous la plume de Diderot « Il n'y a que le méchant qui soit seul », Rousseau s'est appliqué à lui-même cette phrase de Diderot et en a été profondément blessé. Ça a été non pas le seul motif de la rupture entre Rousseau et Diderot, mais la blessure la plus pénétrante que Rousseau ait éprouvée. Il y a des pages et des pages de travail littéraire, de travail psychique pour riposter à cette imputation de solitude dans le mal. Rousseau veut que sa solitude soit une solitude du bien et une solitude dans le bien. Je devrais plutôt dire solitude dans l'innocence, car le dernier Rousseau est un homme qui ne veut plus revendiquer la vertu, la tension héroïque vers le bien. Il estime être un homme faible, mais un homme que le mal n'a jamais touché, un homme de l'innocence, en deçà ou au-delà du bien et du mal.
La solitude de l'innocence, c'est ce que dit Jean Starobinski dans une archive de 1978. Starobinski qui a consacré de nombreuses pages à Rousseau, qu'on lit forcément quand on travaille sur Rousseau, non Michel Crozier ?
Absolument.
Il est assez émouvant d'entendre sa voix.
Absolument.
Et cette formule de la solitude dans l'innocence est intéressante parce que ça montre que finalement le choix de la solitude est peut-être dicté par une misanthropie, une paranoïa, mais il y a aussi un choix positif à cette solitude qui n'est pas défensif.
Alors on peut toujours lire entre les lignes et accuser Rousseau de travestir son goût pour la solitude, mais si on lit avec, j'ai envie de dire avec fidélité, avec respect, le texte des Rêveries, il dit lui-même « Je ne suis à moi que quand je suis seul ». Alors ça peut s'interpréter comme de l'égocentrisme, il dénonce la société des autres parce qu'il préfère être avec lui-même, et ça c'est une lecture que je trouve très très superficielle. On peut dire aussi qu'il n'est pleinement lui que quand il est en lui. Et il faut quand même se rappeler que Rousseau est un écrivain. Donc, nous ne lisons pas les rencontres de Rousseau avec les autres. Nous lisons les pages que Rousseau, rentré chez lui, écrit sur les rencontres qu'il a faites dans la journée ou la semaine précédente.
Mais c'est précisément parce qu'il est un écrivain qu'il se met en scène. C'est ça qui est amusant de voir qu'il dénonce la mise en scène et les personnages que nous jouons. Or, qu'est-ce qu'un narrateur, sinon la mise en scène de soi?
C'est toute la question qui va, je crois, tarauder Rousseau toute sa vie, qui l'a taraudé toute sa vie. Comment puis-je prouver que je suis sincère? Comment puis-je convaincre mon lecteur que je suis sincère? Et pour Rousseau, c'est clair, c'est le ton. C'est l'accent, comme disait Alain Gros-Richard, qui doit prouver au lecteur sincère et fidèle que Rousseau est sincère. Je crois que c'est une théorie qui ne tient absolument pas la route. On ne peut pas, linguistiquement, littérairement, distinguer un menteur d'un grand sincère. Il reste que la plupart des lecteurs de Rousseau ont toujours été frappés par ce ton de sincérité de Rousseau, cette impression qu'il nous dit la vérité.
Ah oui. À la lecture, on peut aussi avoir le sentiment d'un refuge dans l'exagération. Il y a quand même, Rousseau connaît bien l'emphase, Rousseau, la manière qu'il a de se mettre en scène, car sa lecture est quand même une mise en scène de ses sentiments et de lui-même, et parfois tellement outrancière qu'on se demande s'il n'en fait pas trop. C'est pas forcément la sincérité qui frappe, mais ça dépend des lecteurs, justement. C'est intéressant.
Je crois que ça dépend des lecteurs.
Je n'ai jamais entendu un rousseauiste admettre cette dimension, en tout cas, ce qui est assez intéressant.
Mais ça dépend de lecteur. Je crois que ça dépend de la sensibilité du lecteur, de son état d'esprit, et ça nous prouve en tout cas que une fois que le texte est lu, il reste une part d'interprétation. Comment faut-il interpréter un texte qui peut être considéré comme extrêmement retors et difficile, qui peut, et alors bien sûr, la psychanalyse et d'autres lectures très très fines du texte peuvent essayer de montrer que Rousseau joue un personnage, invente un personnage, est le narrateur d'une histoire fabriquée, inventée.
Et que c'est pas grave, surtout.
Oui, mais on peut aussi considérer que Rousseau essaye d'être sincère. Alors, est-ce qu'il l'est complètement? Est-ce qu'il essaye de l'être? C'est très difficile à dire, puisque nous n'avons que le texte aujourd'hui. Vous avez rappelé dans les émissions précédentes que ce texte est tout à fait étonnant. Enfin, on n'a aucun témoignage, aucun document de Rousseau ou d'un contemporain pour dire ce qu'il voulait faire de ces feuilles, de cet herbier. Comme il le dit dans la deuxième, je crois, promenade. On ne sait pas ce qu'il voulait faire de ses feuilles, mais il est clair que Rousseau ne peut pas vivre sans écrire. La preuve, c'est qu'il écrit dans cette vieillesse qui, comme le disait Jean Starobinski, est une vieillesse qui lui donne le droit d'être moins vertueux, d'être moins combatif, d'être moins acharné et de profiter enfin de la douceur de l'existence, dont on a quand même des traces dans les rêveries, même s'il y a à intervalles très réguliers, le retour du thème, du complot, du malheur, etc.
Alors moins à mesure qu'on avance, quand même. Là, justement, dans la neuvième et puis ensuite, dixième, on y arrivera. On sent, c'est ce qu'on esquissait tout à l'heure, plutôt un plaisir à retrouver certaines personnes, à observer les gens autour de lui, ces villageois auxquels il se mêle finalement assez souvent. Il n'est pas dans une solitude emmurée, loin de tout le monde. Au contraire, il parle même du plaisir à vivre dans le monde. Le seul problème, nous dit-il, c'est qu'il est extrêmement connu, que tout le monde connaît Rousseau et que dès lors qu'il est reconnu, ça l'ennuie. C'est le moment où il s'enfuit justement. Il trouve que sa notoriété corrompt sa relation avec les autres. Si bien que finalement, il n'a jamais autant de plaisir à observer que dès lors qu'il sait qu'il n'est pas reconnu.
Je vivais jadis avec plaisir dans le monde quand je n'y voyais dans tous les yeux que bienveillance ou tout au pis indifférence dans ceux à qui j'étais inconnu. Mais aujourd'hui, qu'on ne prend pas moins de peine à montrer mon visage au peuple qu'à lui masquer mon naturel, je ne puis mettre le pied dans la rue sans m'y voir entouré d'objets déchirants. Je me hâte de gagner à grands pas la campagne. Sitôt que je vois la verdure, je commence à respirer. Faut-il s'étonner si j'aime la solitude? Je ne vois qu'animosité sur les visages des hommes, et la nature me rit toujours. Je sens pourtant encore, il faut l'avouer, du plaisir à vivre au milieu des hommes tant que mon visage leur est inconnu. Mais c'est un plaisir qu'on ne me laisse guère. J'aimais encore, il y a quelques années, à traverser les villages et à voir au matin les laboureurs raccommoder leurs fléaux ou les femmes sur leurs portes avec leurs enfants. Cette vue avait je ne sais quoi qui touchait mon cœur. Je m'arrêtais quelquefois sans y prendre garde à regarder les petits manèges de ces bonnes gens et je me sentais soupirer sans savoir pourquoi. J'ignore si l'on m'a vu sensible à ce petit plaisir et si l'on a voulu me l'ôter encore, mais au changement que j'aperçois sur les physionomies à mon passage et à l'air dont je suis regardé, je suis bien forcé de comprendre qu'on a pris grand soin de m'ôter cet incognito.
Je suis peut-être un peu émerveillé souvent de choses qui peuvent peut-être passer inaperçues. Je vois des choses que je trouve fabuleuses. Je vais vous donner un exemple. Si moi j'arrive à Orly et que tout à coup l'hôtesse vienne annoncer qu'il va y avoir 20 minutes de retard, d'un seul coup vous voyez 80 personnes qui gesticulent parce que ces 80 minutes représentent une véritable catastrophe. Et alors moi je reste, je m'installe confortablement et je me dis je vais peut-être voir le meilleur film de la semaine.
Et oui, si Rousseau ne vous est pas sympathique, chers auditeurs, essayez de l'imaginer en Jacques Tati, dans Jour de fête, par exemple, et vous verrez à quel point ça fonctionne très bien. Rousseau qui dit qu'il s'arrêtait quelquefois, sans y prendre garde, à regarder les petits manèges de ces bonnes gens. Eh bien, lui, parfois, il se sent à soupirer sans savoir pourquoi. Tati lui décide d'en faire des films, justement, pour montrer comment ce sens de l'observation nous dit quelque chose des gens qui l'observent. Le point commun, c'est quand même que dans les deux cas, et dans le cas de Rousseau, ça le mérite, il faut le souligner, c'est source d'un grand plaisir. Il y a vraiment ici le plaisir, pas d'altruisme forcément d'ailleurs, mais au moins le plaisir de l'observateur, le plaisir de l'écrivain.
Le plaisir de l'observateur et le plaisir de l'écrivain. Et on peut même ajouter, parce que c'est lui qui en fait mention dans la 9e promenade, on peut même ajouter qu'il y a le plaisir du pédagogue ou du philosophe, hein, puisque c'est lui qui dit dans la 9e promenade que son plus grand bonheur à regarder les enfants, c'est d'avoir pu observer le mieux la nature humaine. Et la nature humaine, elle n'est pas déformée par la profession, l'âge, l'argent. Quand on regarde les enfants, dit Rousseau, ils sont encore relativement dans l'état de nature. Oh, ça ne durera pas, puisque bien sûr, ces petits-enfants deviendront des hommes. Mais enfin, l'observation des petits-enfants, c'est ce qui permet à Rousseau de comprendre la nature humaine. Et il en a fait un des plus grands livres de psychologie, sinon de pédagogie du XVIIIe siècle, qui est l'Émile. Or, que dit Rousseau dans cette 9e ? Il dit, je cite...
Voilà, la 9e, comme on parle des symphonies de Beethoven.
La 9e, comme les symphonies de Beethoven. Dans la 9e promenade, Beethoven s'est arrêté à la 9e, mais Rousseau est allé presque oui, à 10, nous en parlerons. Rousseau écrit dans la 9e, « Ce serait assurément la chose du monde la plus incroyable que l'Héloïse et l'Émile fussent l'ouvrage d'un homme qui n'aimait pas les enfants. » Donc il se vante, il se réjouit d'avoir écrit l'Émile, et c'est le fruit de ses observations sur les bébés, les nourrissons, les petits-enfants, les grands-enfants, les adolescents. Ce livre qu'il donne comme preuve qu'il aimait les enfants. C'est donc bien par la médiation de la littérature que Rousseau se construit le personnage d'homme de la nature, qui connaît la nature, qui peut déceler la nature humaine, et c'est grâce à la littérature. Alors c'est très ennuyeux pour lui, parce que la littérature, c'est un artefact, c'est un artifice, c'est quelque chose d'inventé, ça passe par les mots, ça passe par les cadres littéraires préétablis. Mais voilà, Rousseau est un des tout plus grands écrivains du XVIIIe siècle, et sans doute de toute la littérature française, et il est redevable à la littérature de lui avoir permis d'exprimer ce qu'il est profondément. Ennuyeux, parce que la littérature, c'est une forme de médiation.
Mais il faut dire pourquoi c'est ennuyeux, en fait, de l'entendre dire « Je ne crois pas que jamais homme ait plus aimé que moi avoir de petits bambins, folâtrer, jouer ensemble. » Pourquoi c'est ennuyeux? Parce que même ceux qui n'ont jamais lu Rousseau savent une chose de lui qui n'est pas une idée reçue, c'est que Rousseau a confié ses enfants à l'assistance publique. En d'autres termes, il aurait abandonné ses 5 enfants. Donc il peut paraître ironique que celui qui ait pris la décision de ne pas s'occuper de ses enfants par ailleurs, témoignent d'une telle affection, d'un tel intérêt pour la petite enfance. Il faut dire que dans les rêveries, il s'en explique.
Il s'en explique et il y aurait sûrement d'autres choses que nous pourrions rajouter encore aujourd'hui. Il y a vraiment un anachronisme qui a commencé dès l'époque, donc c'est un anachronisme qui a plus de 200 ans d'âge, à reprocher à Rousseau d'avoir abandonné ses enfants. Parce qu'il le dit lui-même, l'amour paternel, c'est lui qui l'a inventé. C'est lui, dans les mille, qui a dit que les parents doivent s'occuper de leurs enfants. C'est lui qui a dit que les pères et les mères doivent, pour les mères, allaiter leurs enfants, pour les pères, s'occuper de leurs enfants, être le gouverneur de leurs enfants, à une époque où une place importante dans la société, c'est comme marqueur d'envoyer les enfants en nourrice d'abord et puis au couvent pour les filles, dans un couvent de jésuites ou dans un régiment pour les garçons. Plus on a une place élevée dans la société, moins on s'occupe des enfants. Et Rousseau a revendiqué que c'est lui qui a expliqué que les mères et les pères devaient s'occuper de leurs enfants. Alors, évidemment, la question est toute simple. Pourquoi, monsieur Rousseau, avez-vous donc abandonné vos enfants ? Alors, il explique que d'abord, il aurait pu le regretter après, qu'il n'a pas manqué de le regretter après. Et puis, je crois qu'il faut être conscient des conditions matérielles qui étaient celles d'élever des enfants à Paris, quand on est un jeune écrivain sans ressources, quand on vit dans un petit appartement, quand on a besoin de temps pour travailler. C'est affreux de penser que Rousseau a abandonné ses enfants je crois, un tiers des enfants qui naissaient à Paris à l'époque étaient abandonnés par leurs parents pour des raisons sociales. Et il a dit un peu plus tard, vous avez évoqué dans une émission précédente la lettre à Madame de Franville, il écrit quelques années après l'abandon de ses enfants, « Madame, c'est votre état qui vole au mien le pain de mes enfants ». Et là, on n'a pas encore évoqué cette dimension politique de Rousseau, mais l'idée que les pauvres gens sont obligés d'abandonner leurs enfants parce que l'inégalité sociale, l'injustice sociale fait qu'un pauvre écrivain sans ressources comme Rousseau, qui en plus n'est pas marié avec la mère des enfants, mais ça c'est une considération morale, disons, supplémentaire, un pauvre écrivain sans ressources comme Rousseau n'est pas capable d'assumer la charge que représente un enfant.
Alors voici comment il s'en défend, laissons-lui la parole, puisque c'est vraiment une des rares fois dans toute son œuvre qu'il s'en explique. Il écrit ceci dans la 9e promenade. « Je comprends que le reproche d'avoir mis mes enfants aux enfants trouvés a facilement dégénéré, avec un peu de tournure, en celui d'être un père dénaturé et de haïr les enfants. Cependant, il est sûr que c'est la crainte d'une destinée pour eux mille fois pire et presque inévitable par toute autre voie qui m'a le plus déterminé dans cette démarche. » Plus indifférent sur ce qu'ils deviendraient et hors d'état de les élever moi-même, il aurait fallu, dans ma situation, les laisser élever par leur mère, qui les aurait gâtés, et par sa famille, qui en aurait fait des monstres. Je frémis encore d'y penser. Ce que Mahomet fit de Séide n'est rien auprès de ce qu'on aurait fait d'eux à mon égard, et les pièges qu'on m'a tendus là-dessus dans la suite me confirment assez que le projet en avait été formé. À la vérité, j'étais bien éloigné de prévoir alors ces trames atroces, mais je savais que l'éducation pour eux la moins périlleuse était celle des enfants trouvés, et je les y mis. Je le ferai encore, avec bien moins de doute aussi, si la chose était à faire, et je sais bien que nul père n'est plus tendre que je l'aurais été pour eux, pour peu que l'habitude eût aidé la nature. » Vous trouvez ça convaincant, Michel Crojet?
Ça, c'est tout le problème de la lecture. Est-ce qu'on peut être convaincu ou pas? Ça ressemble vraiment beaucoup à de la dénégation. On est très, très mal à l'aise aujourd'hui devant un texte.
Tu t'entends dire, leur mère aurait dû les élever, elle en aurait fait des monstres.
Le vocabulaire nous paraît excessif, exagéré. L'argument nous paraît exagéré, absolument. On est très, très mal à l'aise aujourd'hui devant un texte comme celui-là. Mais la réalité, c'est que c'est Rousseau le premier qui a dit que c'était les parents qui étaient les mieux placés pour s'occuper de leurs enfants à une époque où personne ne le dit et où tous les gens qui peuvent ne pas le pratiquer ne pratiquent pas l'éducation de leurs enfants à la maison.
Oui, et puis on lui demande, à la limite, il dit qu'il est sincère, il ne dit pas qu'il est forcément cohérent dans ses actes, qu'il y a une cohérence entre sa pensée et ses actes.
Alors, il est clair qu'il a dû y repenser, souvent, beaucoup, hein, et puis ce qu'il a offert à l'humanité, c'est pas d'avoir élevé ses enfants, c'est d'avoir écrit l'Émile et la Nouvelle-Héloïse, ce qui est une réaction d'écrivain, c'est un cadeau d'écrivain qui peut mettre tout à fait mal à l'aise les contemporains que nous sommes, ça je comprends
parfaitement. Mais qui ne gâche rien à la plaisir... qui ne gâche rien au plaisir de la lecture que nous avons face à ces textes. Hein, si on reste dans ces rêveries, tous les exemples que vous citez, les rencontres avec les enfants, l'épisode du petit pain de Nanterre. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe à ce moment-là?
Alors ça, c'est un des petits bonheurs que Rousseau raconte, c'est-à-dire que les enfants qui, évidemment par gourmandise, ont très envie de petits pains, ou comme on a la même scène avec les oublis, c'est-à-dire des petites pâtisseries que souhaitaient les jeunes filles, les petites filles qui se promènent avec la religieuse. Et alors Rousseau se donne le plaisir d'acheter un petit pain pour les enfants qui le souhaitent. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on pourra dire oui, c'est son amour propre, il est content de se dire qu'il peut offrir ce petit pain aux enfants. Or, quand on lit le texte, c'est tout à fait clair que pour Rousseau, ça n'est pas une satisfaction d'amour propre, c'est un vrai contentement. Nous parlions au début de la différence entre le bonheur et le contentement. C'est le contentement de voir, dit-il, des visages contents. Donc ça n'est pas la satisfaction, la gratification intime de se dire, voilà, j'ai pu par quelques liards ou quelques sous humilier quelqu'un en lui offrant un petit pain, pas du tout. Il est très heureux d'avoir offert un petit pain et d'avoir vu le bonheur réjoui des petits garçons ou des petites filles en promenade qui se sont vus offrir un petit pain ou des oublis, donc c'est ces petits beignets qu'on l'on vendait dans les promenades publiques. Donc pour Rousseau, son bonheur à lui, ça n'est pas un bonheur social. Moi, je suis assez riche pour offrir un petit pain aux enfants. C'est vraiment la satisfaction visible, le spectacle du contentement des enfants. Il est heureux de voir un visage heureux. Donc ça ne passe pas par le sentiment, ça passe par le spectacle, l'impression de voir des enfants heureux. Et ça suffit à son bonheur de l'instant, son bonheur du moment.
Comme quoi le spectacle et la mise en scène peuvent rendre heureux aussi. Alors le jour de fête, le contentement, la joie ne dure pas jusqu'au bout des rêveries. Si on arrive à la 10e promenade, quelque chose frappe d'emblée. Il suffit d'ouvrir le texte et de voir que cette promenade est beaucoup plus courte que les autres. Et en réalité, elle est inachevée. Quand on sait que ce texte a été écrit... Rousseau a commencé la rédaction 2 ans avant sa mort, qu'il pose la plume 3 mois avant de mourir début juillet 1778. On se demande ce qui s'est passé. Est-ce que la mort l'a surpris? Mais alors pourquoi a-t-il arrêté d'écrire pendant 3 mois? Ou est-ce qu'il a décidé de ne pas continuer ce texte? Michel Crogi, encore un mystère?
Eh ben, c'est un mystère qui risque de le demeurer parce qu'on n'a pas jusqu'ici trouver de témoignages là-dessus, donc il n'y a pas de témoin extérieur, il n'y a pas de témoignage, il n'est pas sûr qu'on en trouvera. Est-ce que ça veut dire que le texte est inachevé? Bien sûr, vous avez parlé de la rêverie comme rythme, hein, c'est Céline Spector qui a évoqué cette idée, et bien sûr, comme la longueur est à peu près homogène, la longueur des promenades, on peut imaginer que celle-là est inachevée. Bon, peut-être que moi je manque beaucoup d'imagination, mais j'ai du mal à trouver qu'elle est inachevée, parce que que voudriez-vous qu'il advînt de plus que ce que raconte Rousseau? Est-ce que vraiment cette promenade est inachevée? Que pouvait-il ajouter de plus? Bah, ça, c'était à lui de le dire. Et puis, pour penser que Rousseau a terminé d'écrire son manuscrit 3 mois avant de mourir, il faudrait prendre pour objectif la date qu'il donne. Mais ce sont des rêveries, ça n'est pas un journal. Mmh. Et quand il dit aujourd'hui jour de Pâques fleurie, c'est-à-dire le dimanche des rameaux, donc effectivement à peu près 3 mois avant sa mort, rien ne nous prouve que cette promenade a été écrite le jour des rameaux de 1778, donc 3 mois avant sa mort. Donc ça peut être aussi un monument, comme on aurait dit au XVIIIe siècle, un hommage rendu à Madame de Warren. Rien ne prouve qu'il l'a écrit 3 mois avant sa mort. Peut-être qu'il l'a écrit quelques jours avant. Et puis, le texte est resté comme il est. Nous avons ce texte en un seul exemplaire. Hein. Il n'y a qu'une rédaction par Rousseau, on a une version rédigée, recopiée proprement des 7 premières promenades, on a un brouillon assez difficile à déchiffrer de la 8e, de la 9e, de la 10e. C'est vraiment un travail qui a été interrompu par Rousseau, interrompu certes, mais on ne sait pas s'il l'a interrompu par goût pour faire autre chose, aller se promener parce que c'est l'été qu'il fait beau, ou bien s'il l'a interrompu parce qu'il n'avait plus rien à dire. Et dans ces cas-là, on rejoindrait l'idée que cette 10e promenade est achevée. Qu'y avait-il d'autre à dire? Alors elle est plus courte que les autres. Mais voilà.
Mais elle est aussi très forte, car il s'agit ici de raconter le souvenir de Madame de, alors j'allais dire Varens, vous dites Warren, C'est ainsi que prononçait également Jean-François Perrin, mon invité de lundi, ce terme-là. Donc comment dit-on, Madame de Varens ou de Warren ?
Il paraît que dans son lieu d'origine, en Savoie, on dit Madame de Warren.
Bon.
Alors il faudra que vous invitiez un Savoyard.
Exactement, ce sera la prochaine fois. Madame de Warren, qu'il appelle aussi maman et qu'il décrit, enfin qui est, auprès de laquelle il a séjourné pendant 4 ans quand il était plus jeune et dont il garde peut-être le meilleur souvenir de son existence. Écoutez ce texte donc, nous sommes à la 10e promenade des rêveries du promeneur solitaire.
Aujourd'hui, jour de Pâques fleurie, il y a précisément 50 ans de ma première connaissance avec Madame de Varens. Elle avait 28 ans alors, étant née avec le siècle. Je n'en avais pas encore 17. Et mon tempérament naissant, mais que j'ignorais encore, donnait une nouvelle chaleur à un cœur naturellement plein de vie. S'il n'était pas étonnant qu'elle conçût de la bienveillance pour un jeune homme vif mais doux et modeste, d'une figure assez agréable, il l'était encore moins qu'une femme charmante, pleine d'esprit et de grâce, m'inspira, avec la reconnaissance, les sentiments plus tendres que je n'en distinguais pas. Mais ce qui est moins ordinaire, est que ce premier moment décida de moi pour toute ma vie et produisit par un enchaînement inévitable le destin du reste de mes jours. Sans ce court mais précieux espace, je serais resté peut-être incertain sur moi, car tout le reste de ma vie, faible et sans résistance, j'ai été tellement agité, ballotté et tiraillé par les passions d'autrui que, presque passif dans une vie aussi orageuse, j'aurais peine à démêler ce qu'il y a du mien dans ma propre conduite, tant la dure nécessité n'a cessé de s'appesantir sur moi. Mais durant ce petit nombre d'années, aimé d'une femme pleine de complaisance et de douceur, je fis ce que je voulais faire, je fus ce que je voulais être, et par l'emploi que je fis de mes loisirs, aidé de ses leçons et de son exemple, je sus donner à mon âme encore simple et neuve la forme qui lui convenait davantage et qu'elle a gardée toujours. J'engageai maman à vivre à la campagne. Une maison isolée au penchant d'un vallon fut notre asile. Et c'est là que, dans l'espace de 4 ou 5 ans, j'ai joui d'un siècle de vie et d'un bonheur pur et plein qui couvre de son charme tout ce que mon sort présent a d'affreux.
Ce retour en arrière, Michel Crogier, qui termine les rêveries, est évidemment extrêmement lourd de sens. C'est-à-dire qu'au moment du bilan, parce qu'il est quand même beaucoup question de sa vie passée dans ce texte, ce qui ressort et ce qui donc le conduit vers la fin de ce texte, si tant est qu'il soit achevé par Rousseau, mais postulons-le, c'est quand même ces années passées en compagnie de Madame de Warren, donc, qu'il appelle maman, ce qui est pour lui peut-être le nom le plus doux qu'il puisse donner à cette femme.
Absolument. Rousseau n'a pas eu de mère, hein, puisque sa mère est morte à sa naissance et qu'il en a gardé une culpabilité que tous les psychologues et psychiatres peuvent analyser aisément. Il paraît qu'en Savoie, mais décidément, il faut que vous invitiez un Savoyard.
La prochaine fois, nous allons parler de Rousseau en Savoie. Alors.
Il paraît que maman, c'est la désignation usuelle de la maîtresse de maison. Donc, ça n'est pas nécessairement une vision incestueuse, encore que l'idée d'inceste est évoquée par Rousseau lui-même dans les Confessions. Donc, on n'a pas besoin d'avoir de recul avec cette idée. Lui-même l'évoque. Hein. Il reste que c'est peut-être un terme, une appellation plus générale que simplement l'idée qu'il voit en Madame de Warren, un succès d'année de la mère qu'il n'a jamais connue. Toujours est-il que ce texte est extrêmement émouvant. Parce que c'est un vieux monsieur, tout vieux monsieur, qui pense qu'il va mourir, et d'ailleurs il meurt peu de temps après, et il raconte l'origine, non pas de sa vie, mais l'origine de ce qu'il aurait sûrement appelé sa vie morale. Quand il dit « je fus ce que je voulais être », hein, on a entendu, c'est grâce à Madame de Warren qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Alors il n'a pas échappé à la dure nécessité, comme il le dit, au tiraillement de l'existence, mais c'est chez elle qu'il a appris à devenir lui-même, qu'il a choisi ses goûts, qu'il a fait les lectures qui vont faire de lui bien des années après, le philosophe écrivain qu'il est devenu. Et donc c'est une vraie reconnaissance qu'il lui doit, et je suis personnellement frappée quand Rousseau raconte qu'il est normal qu'il tombe amoureux de cette femme qui lui donne tout, un asile, de l'affection, de l'éducation, etc. Je suis frappée que le premier terme qu'il emploie, c'est la reconnaissance. Don, dit Rousseau, de reconnaissance qui était le premier sentiment parmi de plus tendres que je n'en distinguais pas. Alors bien sûr, il a des sentiments plus tendres que la reconnaissance, mais le premier sentiment qu'il exprime, c'est la reconnaissance. Et je pense que ça peut nous aider à comprendre ce qu'est cette dixième promenade, inachevée ou non, la question reste en suspens. Parce qu'enfin, qui se souviendrait aujourd'hui de Madame de Warren s'il n'avait pas écrit la dixième promenade ? Et que le tribut de reconnaissance, vraiment, qu'il offre par ce texte tout à fait émouvant, dans lequel il dit qu'il est ce qu'il est, qu'il doit son être moral, qu'il doit la destinée, qu'il, d'une certaine façon, qu'il s'est choisi, il le doit à l'activité de cette femme, au dévouement de cette femme. Donc il lui doit l'être qu'il est devenu. Donc écrire un texte daté, que la date soit exacte ou non, ça ne change pas. Faire un hommage 50 ans plus tard à ce que cette femme lui a offert, c'est-à-dire la possibilité de devenir lui-même, c'est vraiment fermer la boucle et montrer d'où vient sa vocation et sa carrière d'écrivain, me semble-t-il.
Il n'y a pas de jour où je ne me rappelle avec joie et attendrissement cet unique et court temps de ma vie où je fus moi pleinement, sans mélange et sans obstacle, où je puis véritablement dire avoir vécu. Ce ne sont pas simplement les années les plus heureuses, mais peut-être les seules années où il a vraiment vécu, dit-il.
Où il a vraiment vécu.
Et ça se rapporte, presque 70 ans.
Au sentiment de d'être lui-même, d'être complètement libre, de choisir la vie qui lui convient, dans une petite société choisie, comme il dit quelque part, avec une femme qu'il aime, et à faire des choses qui l'intéressent, de la musique et de la philosophie. Alors, on sait que la réalité chez Madame de Warren est pas tout à fait à la hauteur de ce qu'il en dit dans la dixième promenade, mais c'est un magnifique éloge et c'est un magnifique texte de reconnaissance. On pourrait presque dire que c'est une action de grâce à l'égard de Madame de Warren qui lui a permis de devenir lui-même. Donc c'est bien la preuve que même quelqu'un d'aussi puissant dans ses goûts et dans ses désirs philosophiques que Rousseau avait besoin de circonstances favorables, il serait devenu un vaurien, vraisemblablement sur les routes, si elle ne l'avait pas accueilli chez lui à l'âge où se forme vraiment la personnalité de l'adulte. Si elle ne l'avait pas recueilli quand il est rentré de Turin, où il a volé ce fameux ruban qui lui a donné des scrupules pour 40 ans par après.
Oui, il le raconte dans ses confessions.
Il le raconte dans ses confessions, il le raconte encore dans la quatrième promenade. Si Madame de Warren ne lui avait pas donné cette occasion de cultiver une forme de morale et de philosophie. On ne sait pas ce que Rousseau serait devenu. En tout cas, lui rapporte à sa présence, à l'action de cette femme, d'être devenu ce qu'il est devenu. Je relis cette phrase. « Ce premier moment décida de moi pour toute ma vie et produisit par un enchaînement inévitable le destin du reste de mes jours. » On a une de ces phrases tout à fait ambiguë, tel qu'on en trouve chez Rousseau, parce qu'enfin, le destin, est-ce que on produit son destin ou est-ce qu'on reçoit son destin ? C'est tout à fait complexe, c'est tout à fait difficile. Or, pour Rousseau, il doit à cette femme le destin qui a été le sien. Donc, il en a une reconnaissance éperdue qui s'exprime dans ce texte qu'il date symboliquement de l'anniversaire de leur première rencontre. Et quand il a dit que dans les confessions qu'il faudrait mettre un balustre d'or pour isoler l'endroit où il l'a rencontré, il se trouve qu'aujourd'hui, par une espèce de réalisation physique du souvenir, on a installé ce balustre à l'endroit où il l'a rencontré. C'est tout à fait bizarre, cette idée. Mais pour Rousseau, c'était une idée symbolique, c'était un hommage anniversaire symbolique. Et personnellement, je pense que la dixième promenade vaut mieux que le balustre d'or.
Ça veut dire que dans cette dixième promenade, Rousseau décrit dans la littérature ce à quoi il aurait aimé que sa vie ressemblât. C'est-à-dire qu'il y a un moment où sa vie et son écriture et ses rêves ont pu coïncider. Il a vécu sa vie comme il en rêvait.
Oui, il a vécu comme il l'en rêvait pendant ces 4 années qu'il a vécu chez Madame de Warren. Mais je crois que vous êtes un peu cruelle en disant qu'il n'a eu que ces 4 années.
C'est ce
qu'il
dit.
Parce que maintenant,
c'est ce qu'il dit. C'est le seul moment où j'ai vécu.
Oui, c'est ce qu'il dit. Mais il a un vrai bonheur à repenser à ces 4 années maintenant. Et c'est le bonheur de l'écrivain Rousseau que nous sentons, que nous recevons dans la lecture de ce texte extraordinaire à chaque fois que nous le relisons. La première fois, c'est sûrement très étonnant de lire cette 10e promenade, mais à chaque fois qu'on le relit, on est plus frappé par l'émotion qui soulève Rousseau à la pensée de tout ce que cette femme a eu comme effet sur sa propre vie. Non seulement des années heureuses qu'il a passées chez elle, et bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des raisons de penser que ça n'était pas aussi idyllique en tout temps qu'il en a laissé le souvenir dans cette rêverie, mais il en a un souvenir ébloui parce qu'il voit bien que c'est cette époque de construction de sa personnalité qui lui a donné le bonheur qu'il ressent encore aujourd'hui.
Vivre sa vie comme un rêve, vivre en marchant solitairement, vivre en rêvant, c'est la leçon de Rousseau au terme de ses 10 promenades. Live the life I sing about in my song. Vivre sa vie telle qu'on la chante ou telle qu'on l'écrit, c'est donc ce que fait Rousseau. Un grand merci à vous, Michel Crogier, d'être venu nous en parler aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie vraiment.
C'est avec un grand plaisir que je renvoie à l'édition que vous proposez de ces rêveries en livre de poche, en tout cas avec une présentation, une annotation. Également, on peut trouver toujours au livre de poche une édition des Confessions de Rousseau. Et puis, plus original, plus inattendu, vous avez aussi publié la correspondance de la duchesse d'Anville avec une préface d'Elisabeth Padinter aux éditions de L'Œil. La duchesse d'Anville méconnue mais qui gagne à être connue, c'est ce que vous m'expliquez. J'invite les auditeurs à se référer à cet ouvrage qu'on mettra évidemment en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Alors comme tous les jours, vous nous parlez de philosophie en lien avec l'actualité. Quelle actualité ou quelle philosophie a retenu votre attention aujourd'hui ?
Eh bien samedi, donc le 2 décembre, aura lieu toute la journée de 9h30 à 20h30 au Collège des Bernardins, un colloque entièrement consacré à Lou Andréa Salomé. Lou Andréa Salomé, l'épreuve de l'amour, c'est le titre de ce colloque. Alors ce colloque conclut un séminaire de 2 ans sur l'union intérieure entre le corps et l'âme et ils ont donc choisi de finir en beauté avec l'œuvre de Lou Andréa Salomé. Sa production psychanalytique, littéraire ou épistolaire, qui a surgi à chaque fois de sa propre existence, est en effet l'occasion d'explorer au mieux cette idée de vie intérieure, mais d'abord, et peut-être, de faire la lumière sur Lou Andréa Salomé, trop peu connue pour elle-même.
J'en vins à me sentir moi-même déformée, gauchie par le tourment, surmenée. Je ne marchais plus que comme un automate à tes côtés. Incapable de risquer encore une vraie chaleur, toute mon énergie nerveuse épuisée. Enfin, de plus en plus souvent, je t'ai repoussée. Mais je te laissais me ramener à toi. Je le sentais. À condition de tenir, tu guérirais. Je n'ai cessé d'avoir à grandir et grandir encore, jusqu'à ce résultat que je t'ai confié avec tant de joie, quand nous nous sommes quittés. Oui, si étrange que paraissent ces mots, jusqu'à retrouver ma jeunesse. Car maintenant seulement je suis jeune, maintenant seulement je puis être ce que d'autres sont à 18 ans, entièrement moi-même.
Être entièrement soi-même, Lou l'a ressenti à 39 ans, peu après sa rupture avec le poète Rainer Maria Rilke, et cette lettre qu'elle lui écrit, ce dernier appel, apparaît alors aussi comme un premier appel de Lou à elle-même. Une naissance ou une renaissance de Lou pour elle-même, au cœur d'une existence faite d'alliances, de relations intellectuelles ou affectives avec Nietzsche, Paul Rey et Freud, bien sûr. Et c'est d'ailleurs la question que soulève une figure comme celle de Lou Andrea Salomé. Son nom n'est pas inconnu, mais il est sans cesse associé à d'autres noms que le sien. Et son œuvre, même quand elle est un peu explorée, mise en avant, est elle-même sans cesse ramenée à sa vie intérieure, trop souvent réduite d'ailleurs à celle de vie personnelle, toute faite d'amour et d'amitié, soit donc en lien avec d'autres qu'elle-même. Comment donc parler de Lou et de sa pensée pour elle-même, entièrement pour elle-même, comme elle dit l'avoir ressenti ? Alors que l'on peut déplorer dans l'histoire de la philosophie quand même l'absence ou le trop peu de femmes philosophes, seules Beauvoir, Veil et Arendt sont étudiées, pourquoi ne pas faire la part belle à la production très dense et diverse de Lou Andrea Salomé ? Presque une vingtaine d'ouvrages et d'articles, de textes littéraires et autobiographiques, allant de la question de Dieu à celle du narcissisme à partir de Freud, sans oublier bien sûr tout son commentaire de Nietzsche.
La douleur et la solitude, telles sont les deux figures tutélaires qui veillent sur la destinée de Nietzsche, de plus en plus présente au fur et à mesure qu'approchera la fin. Jusqu'à son dernier jour, elles ne cessent de nous montrer leur double visage, car elles sont pour lui à la fois une fatalité extérieure et une nécessité intérieure, voulue, déterminée par son esprit et par lui seul. Car ses souffrances physiques, tout autant que son mystère et sa solitude, reflétaient et symbolisaient quelque chose qui se trouvait tout au fond de lui, et elles le reflétaient avec une telle immédiateté qu'il les acceptait comme un arrêt de la Providence, comme des amis et des compagnes austères et prédestinées.
Si la solitude et la douleur veillaient donc sur Nietzsche, quelle figure tutélaire était alors celle de Lou ? La question est d'autant plus cruciale qu'elle se pose à celle qui avait donc ressenti être entièrement elle-même, mais surtout à celle qui s'était mise en quête d'elle-même dès l'enfance, jusqu'à donc développer plus tard une théorie du narcissisme. Et bien pour le savoir, il y a deux ouvrages qui sont incontournables, le Lou Andrea Salomé de Dorian Astor, que l'on trouve aux éditions Folio, et puis il y a celui de Stéphane Michaud sous titre L'allié de la vie, disponible au Seuil. Alors certes, ce sont deux biographies, mais elles nous conduisent bien sur la voie des concepts saloméens. Je ne sais pas si ce concept...
Inventons-le.
On peut l'inventer, donc saloméen. Et donc j'en donnerai au moins deux de ces concepts saloméens en lien avec le soi de Lou. Alors d'abord, il y a celui de la disparition de Dieu qui va de pair avec la quête d'une individualité propre. Une individualité qui trancherait la confusion entre le monde et soi. Et puis, il y a aussi le concept de tout, de retour au tout, tel que le rappelle Dorian Astor, qui apparaît lors des réflexions de Lou sur la maternité et la création, où l'on passe d'individu seul à créature qui crée, mais qui apparaît aussi dans ses réflexions sur le narcissisme comme indifférence entre soi-même et le monde. Alors évidemment, j'aimerais en donner d'autres, des concepts de Lou Andrea Salomé. J'aimerais parler de ce qu'elle disait du féminin, sans être complètement féministe, ce qui battrait aussi en brèche cette tendance à ne la voir que par le prisme des hommes qui l'entouraient. On pourrait aussi parler de sa production littéraire, plutôt féerique et mythique, mais je finirai avec ce qu'elle disait justement des lacunes, de ce que l'on n'a pas pu dire. Rien n'est dit positivement, mais ce qu'on ne dit pas se devine à partir des aspects négatifs, on peut l'ébaucher à partir des lacunes et des manques.
Et c'est ce que va faire justement cette journée qui est organisée au Collège des Bernardins, n'est-ce pas ?
Exactement, donc c'est samedi 2 décembre, c'est de 9h30 à 20h30 et on mettra le lien sur le site du journal de la philo avec tout le programme.
C'est noté, merci Géraldine. Et merci à David Pargamin qui a préparé cette émission, ainsi que Claire Perriman-Holt, Marianne Chassor, vous-même Géraldine Mosna-Savoie, Louis Servet, Olivier Bétard qui a réalisé cette semaine, Georges Claes qui était à la lecture des textes, Pierre Faucillon aujourd'hui à la prise de son. On se retrouve demain, c'est la fin de la semaine sur Rousseau, mais on continue demain évidemment pour les chemins du vendredi. Demain, je recevrai le cinéaste Bruno Dumont qui viendra faire dialoguer films et textes de philosophie. D'ici là, pour écouter l'émission Rien de plus simple, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Vous pourrez aussi la réécouter ou la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur nos comptes Facebook et Twitter, où nous attendons vos remarques et commentaires. Rendez-vous demain, à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.